Approche philosophique de la personne par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 20 décembre 1995, troisième conférence. Je continue pour bien situer dans la recherche philosophique ce problème de la personne. Parce qu'il peut se situer, je vous ai dit ce matin, au terme de la philosophie. Et puis, après ayant découvert l'existence de Dieu, à ce moment-là aussi, on pourrait dire, il peut se situer même avant, on va voir ça, une philosophie réaliste. Est une philosophie qui commence à partir de nos expériences. On devient intelligent. Si on veut, alors on est attentif aux grandes expériences de notre vie. Et à partir des expériences, on interroge et on analyse. Je crois que le point de départ d'une philosophie réaliste commence avec l'expérience du travail. Parce que c'est l'expérience humaine par excellence, pas la plus importante. C'est l'expérience humaine la plus étendue dans notre vie. De fait, elle a commencé très vite et elle finit quand on ne peut plus travailler. Et quand quelqu'un ne peut plus travailler, c'est déjà un signe que ça ne va pas bien. Vous voyez, on gémit sur le travail qu'on a. Et quand on vous met à la retraite, on pleure. C'est très drôle, ça. C'est très, très curieux. Pas seulement par une question d'argent. Il y a une question d'argent. Les grèves, c'est des questions d'argent. C'est pas humain, vous voyez, à ce point de vue-là. Parce qu'on ne travaille pas pour gagner sa vie. Oui. On travaille pour gagner sa vie, mais pas uniquement pour ça. Pas uniquement pour ça. On travaille pour les autres. Le travail humain est toujours orienté vers les autres. Et c'est ce qui nous aide à les comprendre, du reste. Quand on n'a jamais travaillé pour quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Petite expérience, hein. Faire des petits cadeaux aux gens pour voir ce qu'ils sont. Voyez, des petits cadeaux réels. On a travaillé pour eux. Je crois que c'est la grande expérience humaine, le travail. Et ce qui est très curieux, c'est que, voyez, il faut bien se le dire, que la philosophie a commencé, notre philosophie européenne, grecque, le premier traité de philosophie en Grèce, 8 siècles avant Jésus-Christ, c'est Hésiode, le travail et les jours. Et puis le traité de la jeunesse des dieux. On commence par le travail et on regarde les dieux, les deux extrêmes. Je trouve ça assez beau. Alors on discute beaucoup parce qu'Hésiode, évidemment, c'est un philosophe très particulier. La philosophie n'existant pas encore, c'est une description à la fois poétique et malheureuse. C'est quelqu'un qui est malheureux en ménage. C'est pas à cause de ça qu'il est philosophe. Mais il est malheureux au ménage. des conseils comme ceux-là pour voir le genre de philosophie que ça représente. Quand tu te maries et une paire de vœux, et surtout, fais attention de ne pas te marier avec une femme qui sera le frelon dans la ruche. Le frelon dans la ruche, c'est-à-dire qui accapare tout pour elle. Comme si on devait travailler pour elle. Travaille, épouse une femme qui pourra coopérer à ton travail. Vous voyez, paysan. Paysan un peu malheureux, un peu triste. C'est intéressant de voir qu'au point de départ de la philosophie européenne, c'est un traité sur le travail. Le suivant, il faudra attendre très longtemps. Aristote a bien fait un traité poétique sur le travail artistique. Platon a bien parlé de l'inspiration. Après, avec le point de vue chrétien, les règles religieuses ont parlé du travail. Saint Benoît, un moine qui ne travaille pas n'est plus un moine. Le moine doit travailler. Mais alors ça, c'est le point de vue chrétien, vous voyez. On ne raisonne pas sur le travail. Les théologiens n'en parlent pas. Saint Thomas parle de l'art, incidemment, à la suite d'Aristote, mais ne fait pas un traité sur le travail. C'est très curieux. Il a fallu Marx pour réveiller les philosophes, pour comprendre qu'il fallait peut-être faire un traité sur le travail humain. La praxis de Marx. Et je crois de nos jours, pas à cause de Marx, mais de nos jours, si on reprend une philosophie réaliste, il faut tout un traité sur le travail. Et l'art, le travail artisanal, puisque c'est dans le travail artisanal qu'on trouve le mieux ce que c'est que l'art, le travail. Et on sait que l'évolution du travail se fait en fonction de l'outil. Parce que quand on travaille, très vite, on a besoin d'un outil pour mieux travailler. Pour que l'efficacité soit plus grande et la rapidité plus grande. Et alors, c'est très curieux de voir que c'est en fonction des outils de plus en plus perfectionnés. C'est en ce sens-là que le premier outil, c'est le prolongement de la main. Parce que la main ne suffit pas à tout faire. Pour cuire un œuf, on a besoin quand même d'autre chose que la main. Parce que la main brûlerait avant que l'œuf soit cuit. Ce qui serait très gênant. Alors on invente des instruments. Le premier instrument, c'est la roue. Puis avec le feu, vous savez, c'est le fameux mythe de Prométhée. Marx a fait sa première thèse, son mémoire, sur Prométhée. Et c'est de Prométhée qu'il est arrivé à la praxis. Et Prométhée, c'est celui qui vole le feu aux dieux. Parce que le feu, c'est quelque chose de divin. On le vole aux dieux et on le donne aux hommes. Et à partir de là, l'homme peut inventer l'art. Vous voyez, c'est que le feu est le compagnon du travail. Et que le feu permet de fait que l'art, ça c'est l'origine. Mais c'est intéressant. intéressant de voir comment la philosophie idéaliste Descartes ne dit rien sur le travail. Là, les psychologues ont fait du bien en rappelant que tant que l'homme travaillait, il y avait une espérance qu'il retrouve son équilibre. Le jour où il ne travaille plus, il perd son équilibre. Très important, ça. C'est vrai, ça. C'est le lien, vous voyez, de l'intelligence et de la main qui fait un premier équilibre humain. Première vision de l'homme, c'est ça. C'est l'homme travailleur. L'homme qui se sert d'instrument pour modifier une matière brute qui lui est donnée. Alors il y a toute la diversité du travail, et aujourd'hui, le travail n'est plus, les instruments ne sont plus seulement le prolongement de la main, mais sont le prolongement aussi des pieds. Hein, quand on a découvert l'automobile, on a découvert des pieds ronds. Et ça allait plus vite. Et puis on a découvert des instruments, l'avion, au début du siècle. C'est pas vieux, pas vieux. Avant, on avait la nostalgie de l'aigle. Puis un jour, on s'est dit, après tout, on va peut-être l'imiter. Aviateurs qui sont de vrais et qui aiment ça de leur métier. C'est extraordinaire de voir combien l'avion fait partie de leur corps et le prolonge. Enfin, c'est toujours à partir du corps de l'homme qu'il y a l'instrument. Et le travail, les anges, alors ça, je dis ça au point de vue théologique, les anges ne travaillent pas, ils n'ont pas de main, ils n'ont pas de matière, il faut une matière, des mains, un instrument et des instruments, c'est le prolongement du corps. Même de la raison et de la logique. L'ordinateur, c'est quand même un instrument très extraordinaire. Ça change tout, l'ordinateur. Ça fait que tout va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Avec une vitesse telle qu'on va tous se casser la tête. Qu'il y a quand même des limites. Le cœur ne souffre pas d'aller trop vite. Donc, première expérience. Et on a une vision de l'homme travailleur. Et la vision de l'homme travailleur, c'est la première vision d'un homme lié à l'univers et transformant l'univers. L'homme, roi de l'univers, et luttant contre l'univers. C'est une manière pour lui d'exercer son dominium, son pouvoir. Il y a toujours cette nostalgie de dominer l'univers. Et aujourd'hui, avec l'art médical et les instruments merveilleux qu'on peut avoir, on voudrait dominer la vie. Dominer la vie. Être celui qui peut dominer la naissance et la mort. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, ça. Et c'est toujours cet aspect du travail, la domination. matière. Domination du monde animal. Domination de l'homme et du corps de l'homme. Et faire que l'homme puisse se dominer pleinement, tant du côté du mouvement local que du côté du mouvement de l'intelligence et de la raison. Et les instruments sont poussés pour faire que l'homme puisse avoir un pouvoir de plus en plus grand. Alors, ça, c'est intéressant de voir qu'à la fois le travail est source d'équilibre, et quand on ne regarde plus que l'efficacité pour prolonger la puissance de l'homme, l'homme se déséquilibre, et la personne humaine n'est plus une personne humaine. On devient des tyrans. C'est extraordinaire, ça. De voir qu'on ne voit plus que l'efficacité, que le rendement. Et vous savez, votre valeur humaine est jugée en fonction de l'efficacité. Vous voyez, c'est une première vision de la personne humaine que le marxisme a mis très en valeur. Et que il n'y a pas que le marxisme. Que de fait, le progrès des sciences, de la technologie, ses limites, dépasser son conditionnement. Deuxième grande expérience, l'homme face à l'homme. Voyez, prenez ce que je vous disais ce matin, parce que je crois que toute philosophie se ramène à ces trois dimensions. Vous avez l'homme, face à l'univers, face à la matière, il la transforme, le travail. Et alors on mettait tout de suite l'outil, parce que ça c'est très important. Un bon travailleur a toujours son outil. Il est artisan. L'homme face à l'homme. L'homme face au transcendant. Face à l'absolu. Selon les traditions religieuses, face à Dieu. Donc la grande expérience du travail, je modifie l'univers et je le transforme. Et c'est moi qui le transforme selon mes idées. C'est ça qui est très important à voir. Parce que dans le point de vue du travail, on a des idées, on a des projets. Et l'homme devient mesure de toute chose. Il y en a une vision de l'homme qui domine. Et il y a un primat de l'efficacité. efficacité donne un type d'homme très particulier. Toujours premier dans tous les concours. C'est l'efficacité des concours. N'importe quel concours, même quand il s'agit de l'agrégation, c'est encore un concours. C'est très curieux, ça, les concours. Et vous savez, dans le sport, tout ça, on voit très bien. Parce que c'est vous voyez, il y a là quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il y aura le travail et le jeu. Ça se tient d'une certaine manière. Et comment le jeu peut devenir du travail, des compétitions? Alors, vous avez la transformation, parce que tout ça se tient, c'est l'homme face à l'univers. L'homme face à l'homme. Alors, la grande expérience de l'amour d'amitié. Je ne peux connaître parfaitement l'homme qu'en devenant l'ami. L'homme sans l'amitié est toujours un peu énigmatique pour moi, pour chacun d'entre nous. Par l'amour d'amitié, je connais l'homme, je connais l'autre. L'autre homme, pas la matière. Le jour où on confond amour d'amitié et travail, on tue l'amour d'amitié. Vous savez bien, il y a des tyrans quelquefois dans l'amour d'amitié. Il y a des tyrans. Je veux que mon ami soit exactement ce que je veux qu'il soit. Il y a des époux qui sont comme ça, à l'égard de leur épouse. Et des épouses qui sont comme ça à l'égard de leur époux. Elles ont leur idée. Tu dois être comme ça. Puisque mon goût, c'est le meilleur de tous. Alors, je n'ai pas discuter. Alors, vous voyez, c'est le passage, c'est très curieux. Ça, c'est un très grand problème au plan philosophique. Et au point de vue humain, c'est très très important de comprendre ça. De comprendre que le travail, l'activité artistique, on transforme la matière. Tout ce qui est capable d'être transformé, c'est la matière. Et j'aboutis à l'œuvre. L'œuvre, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai réalisé. L'œuvre ne fait pas partie de la personne. Mais c'est Malraux qui dit. Et c'est intéressant au point de vue, justement, de la personne. Que l'œuvre, le chef-d'œuvre, habituellement on dira le chef-d'œuvre est la gloire de l'homme. Parce que le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre demeure et l'homme meurt. Les grands chefs-d'œuvre demeurent. Évidemment, il y a l'épreuve du temps. Parce qu'il y a des petits chefs-d'œuvre qui durent un certain temps. Puis après, il y en a d'autres qui les remplacent. Enfin, surtout quand les modes passent très très vite. Alors les chapeaux, comme ça passe très vite. C'est très, le chapeau est une œuvre d'art, n'est-ce pas? C'est une œuvre d'art. Et les chevelures, c'est une œuvre d'art. Il y a des lions sans crinière, et des lions à crinière. Bon, et ça fait partie, justement, d'un chef-d'œuvre. Il y a mille façons de servir ses cheveux. Et toutes les modes sont transformation de la matière. Et c'est toujours l'œuvre. Alors l'œuvre est anti-destin. C'est la définition que donne Malraux. Et c'est assez juste parce que l'œuvre demeure. assez de liberté. Pour qu'il y ait une œuvre, il faut qu'il y ait l'idée et que l'homme se mesure. L'amour d'amitié, c'est le respect à l'égard de l'autre. Et alors, peut-être bien que la première expérience de la personne humaine se fait avec l'amour d'amitié. L'ami, c'est une personne. Et c'est quelqu'un que je respecte comme personne. L'ami me fait comprendre la dignité de la personne humaine. Alors, évidemment, c'est particulier, c'est cet homme-là que je connais. Mais ça montre bien que le dialogue de l'homme avec l'homme, impliquant cette expérience particulière de l'amour d'amitié, me permet de mieux comprendre la dignité de la personne humaine. Vous voyez ? Tandis que l'artiste, en tant qu'artiste, hein, en tant qu'artiste, pas en tant qu'homme, il voit tout de suite dans la matière qui peut être un homme, qui peut être son voisin, qui peut être son client, qui peut être son ami, voit tout de suite ce qu'on peut transformer en lui. Je me souviens, expérience qui m'avait beaucoup frappé. Je connaissais des psychanalystes freudiens à Paris qui ont voulu à tout prix qu'on essaie de discuter ensemble le problème de la personne humaine. Comme ils m'invitaient, certains étaient vraiment des amis. J'ai accepté. Alors on a pris comme principe, il y avait quelques psychanalystes freudiens, puis nous étions deux philosophes. Pour que le dialogue soit un peu plus intéressant, on avait dit on invitera nos amis. Comme ça, il y aura un peu plus de monde, ce sera mieux. Alors on a invité des amis de part et d'autre. Alors, je me souviens très bien la première fois qu'il y a eu cette réunion. Les amis sont partis, je suis resté seul avec mes psychanalystes. Tout de suite, la psychanalyste la plus intelligente, qui était vraiment très intelligente, très freudienne, m'a dit, mais mon père, vous nous avez apporté quelqu'un. Oh, un petit coup d'analyse, ça lui ferait du bien. Alors, je lui ai dit, mais écoutez, on a dit qu'on amenait nos amis. Je ne vous amène pas des clients. Je lui ai dit, ah, vous voyez, comme c'est intéressant ce qu'on est en train de vivre là. Vous avez regardé cet ami. Vous avez vu ses réactions. Vous avez dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Au fond, votre expérience a été l'expérience d'un artiste sur une matière nouvelle, inédite, et vous avez essayé de voir ce qu'on pouvait corriger. Moi, j'ai regardé vos amis tout à fait autrement. J'ai essayé d'en faire des amis. Les amis de nos amis sont des amis. Alors j'ai pas du tout regardé en eux ce qui n'allait pas. J'ai regardé au contraire ce qu'il y avait de positif en eux. Leur réaction intelligente à telle ou telle chose. Alors j'ai commencé à comprendre que l'expérience de l'artiste de l'ami. Là, quand je dis la philosophie commence par l'expérience, attention. Il y a expérience et expérience. L'artiste, et ça c'est vrai, regardez un menuisier, un charpentier, quand il regarde le bois, il voit tout de suite ce qu'on peut en faire. La matière dont on peut le transformer. Tout de suite. Ce qu'il a en lui d'intéressant pour en faire un ami, vous ne voyez pas en premier lieu ce que vous pouvez transformer en lui. Quand l'artiste l'emporte sur l'ami, il tue l'ami, puisqu'il veut en faire sa chose. Donc là, en présence de deux types de personnalités très différentes, et qu'on peut tout de suite découvrir. Puisque l'art médical, même la psychanalyse, c'est un art. Ça implique des connaissances, mais c'est un art. On veut transformer le psychisme. On veut l'aider à sortir d'une ornière et d'une impasse. Et donc on est là pour essayer de l'aider. L'artiste du psychisme, l'artiste des refoulements, l'artiste de tout ce qu'il peut y avoir d'inconscient, tandis que l'ami, il désire rencontrer l'autre et le connaître dans ce qu'il a de plus positif, dans ce qu'il a de plus profond. Vous êtes donc en présence là de deux types très différents. Celui qui transforme l'univers. Et dans l'univers, il y a le malade. Dans l'univers, il y a l'homme qui va plus bien et qu'on le présente comme client. Donc, qui est une matière à transformer. Et puis, il y a la rencontre amicale. La rencontre de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme et quelle est l'activité propre de l'homme? Vous avez là deux regards très différents qui, au terme, vous met en présence de deux types de personnes tout à fait différents. L'ami. Il y a des personnes qui sont accueillantes, qui tout de suite créent des liens d'amitié. Il y en a d'autres qui présentent au contraire des griffes, tout de suite. T'approches pas, mon vieux, je te mangerai. Donc, c'est tout à fait autre chose. Oui, la domination, le pouvoir, on veut dominer. C'est un type d'homme dangereux, mais c'est un type d'homme. C'est l'efficacité qui domine. Là, qu'est-ce qui domine dans l'amour d'amitié? Ah, c'est l'amour. C'est pas l'efficacité, c'est l'amour. Et un amour réciproque. Et l'amour réciproque a l'avantage, c'est qu'on se respecte dans cet amour de réciprocité, pour que ça aille plus loin. Vous avez là deux types très différents. Et je crois que c'est très important de saisir ça tout de suite. On verra après. On peut peut-être aller un peu plus loin. C'est que dans les rapports d'homme à homme, il y a les rapports politiques. Les rapports politiques impliquent la coopération. Parce que la coopération est à la source du bien commun. Le bien commun, c'est celui qu'on fait avec un autre. On est deux à le faire, on n'est pas tout seul. Oui, il y a toujours un certain égoïsme quand on fait une œuvre soi-même. Tandis que quand on la fait avec plusieurs, c'est en face du bien commun. Et c'est la coopération. coopération qui fait bien quoi. Quand il n'y a plus aucune coopération et qu'il n'y a plus qu'une rivalité, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, l'aspect politique disparaît et le bien commun disparaît. Parce qu'on ne regarde que son bien et non plus le bien commun. Le bien commun du pays. Vous voyez, c'est la coopération. Et c'est pas commode de coopérer quand on est en face d'un individualisme forcené. Chacun prend son gâteau, chacun prend sa part, peu importe l'autre. Alors, il n'y a plus de coopération. Quand il n'y a plus de coopération, il n'y a plus de bien commun. Et je crois qu'il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'activité politique, au sens fort. Mais il faut bien montrer que l'homme face à l'homme peut réaliser une communauté. Et c'est l'aspect politique qui apparaît, et c'est l'aspect du bien commun qui apparaît. Il n'y a de communauté que quand il y a un bien commun. Chacun fait ce qu'il peut. Et si j'analyse cette activité politique, je vois qu'elle implique à la fois une activité morale, d'amour, et une activité artistique. Il y a les deux. C'est pour ça qu'il y a toujours diverses conceptions politiques. Et je crois que les conceptions politiques, on devrait se prendre de là. Est-ce que c'est l'efficacité qui domine? Ou est-ce que c'est le lien d'amitié qui domine? Quand c'est l'efficacité qui domine, on a des pouvoirs tyranniques. L'efficacité à tout prix. Quand, au contraire, l'aspect accueil et respect de l'homme domine, on a un aspect politique qui est en vue que les hommes puissent s'aimer, puissent avoir confiance les uns envers les autres. Et les deux extrêmes de la communauté. Et je crois que c'est l'aspect-là qui nous fait comprendre comment l'activité politique fait une personnalité particulière. Vous savez, on avait donc trois. L'aspect de l'activité artistique, un type particulier d'homme. Second et troisième. C'est important de découvrir ça. C'est que je vois que tout de suite, l'aspect fondamental d'une philosophie réaliste implique trois dimensions. Le travail, l'amour d'amitié, et le bien commun, le citoyen. On est du même pays, on a travaillé ensemble, on a des liens multiples, et on peut faire ensemble une œuvre commune. On travaille à un bien commun, on s'enrichit mutuellement, on ne se tire pas dans les pattes, mais on essaie au contraire de travailler ensemble. Je crois que c'est le triangle de base de toute philosophie réaliste, et c'est une anthropologie. C'est l'homme que je regarde, l'homme travaillant, l'homme aimant, l'homme coopérant. Vous avez là trois types d'hommes. C'est important de voir ça, qui sont différents. Trois types de personnes humaines. On pourra se poser la question, est-ce que vraiment il y a une personne humaine, politique, qui a son caractère propre de personne humaine? Mais puisqu'au fond, cette activité politique implique une activité de travailleur, implique une activité de coopération. Or, pour pouvoir coopérer, il faut un minimum de confiance, un minimum d'amitié, de philanthropie, de n'avez pas confiance en l'autre et que vous voyez tout de suite dans l'autre le rival, il n'y a plus possibilité de coopération. Et quand les partis politiques l'emportent sur l'aspect politique, il n'y a plus qu'une rivalité. Il n'y a plus de coopération. Alors ça tue l'aspect politique. Vous avez donc là ce qu'on appelle la philosophie pratique humaine. Elle est fondamentale. Vous voyez, je vais vite sur ces trois parties-là. On aurait ici, on peut dire ceci, on a donc là ce qu'on appellerait la philosophie de l'actif du travail, la philosophie éthique et la philosophie politique. C'est les trois parties fondamentales de toute philosophie réaliste. On commence par ça. Et vous avez là les trois dimensions de la philanthropie. Les trois dimensions de l'anthropologie, je veux dire. Les trois dimensions. L'homme qui travaille, qui est capable de travailler. L'homme qui est capable d'aimer. L'homme qui est capable de coopérer. Parce que vous voyez, la famille, elle est ici. C'est la première communauté la plus naturelle. Et c'est là où la coopération est la plus forte. Et la coopération la plus forte, c'est la constitution de la famille et le point de vue de la procréation. C'est la coopération la plus forte. C'est là où le bien commun est le plus fort. Alors on peut se demander, est-ce que être père de famille, est-ce que c'est une personne humaine caractéristique? Être mère de famille, on verra ça au terme, mais je situe. Mais c'est évident qu'au plan politique, il y a la politique dernière, mais le fondement de la politique, c'est la famille. Bon, là, c'est la base de toute philosophie réaliste. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une triple orientation. Je suis obligé d'aller plus loin parce que il y a dans l'homme cette recherche de la vérité. L'homme est capable de chercher la vérité. Et la vérité, ce n'est ni la transformation de la matière, ni l'amour d'amitié, ni l'aspect politique. Attention quand je dis ça. Hein. Il y a une vérité dans le travail. Il y a une vérité dans l'amour d'amitié. Il y a une vérité dans l'homme politique. Oui. Mais ce n'est pas cela qui va me permettre d'aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Vous allez tout de suite comprendre, je crois, que ces trois aspects, ces trois dimensions d'une philosophie pratique, d'une philosophie de l'homme, philosophie humaine, anthropologie, ne suffit pas. Parce que la philosophie du travail regarde la matière en tant qu'elle est capable d'être transformée. Je regarde la matière sous l'angle de l'œuvre et de l'efficacité. Qu'est-ce que cette matière est capable de donner? D'être transformée. Donc je la regarde sous un point de vue tout à fait pratique. Et je peux aussi me poser matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? Et c'est important s'il faut aller jusqu'au bout de la transformation et de l'œuvre. Et donc, à partir de là, va naître une nouvelle recherche qui n'est plus d'ordre pratique, qui n'est plus d'ordre de l'efficacité, qui n'est plus de l'ordre de l'amour, qui n'est plus de l'ordre de la coopération. C'est que l'homme est capable de regarder l'univers pour lui-même, sans le transformer. Et c'est important, parce que c'est difficile pour moi de transformer les étoiles. C'est difficile pour moi de transformer la Lune. On va bien un petit voyage là-bas, un petit week-end, mais c'est difficile de transformer la Lune. On l'a pas beaucoup transformée. On l'a pas beaucoup transformée. Depuis qu'il y a eu un pas humain sur la Lune, est-ce que vous avez vu le changement? Même si on a emporté des petits souvenirs. Pas vu le changement. Quant au soleil, on n'aime mieux pas trop s'approcher. Vaut mieux pas. Il est trop puissant. Les étoiles, Mars, Vénus, on ne connaît pas grand chose. Au point de vue de la transformation, on ne transforme pas grand chose dans l'univers. Vous savez, quand on voit ce qu'on peut dire, les transformations, même quand on voit la désagrégation de l'atome, est-ce que ça peut représenter comme exigence d'efficacité de travail? Et quand on voit la puissance d'un orage, ce qu'un orage représente comme efficacité, comme puissance, c'est extraordinaire. Voir comme au fond, ce que l'homme fait, et qui croit extrêmement puissant, n'est pas grand-chose à côté de ce qu'est la nature, ce qu'est l'univers. Et alors on comprend à ce moment-là ce qu'on disait de nos ancêtres les Gaulois. Ils n'avaient qu'une seule peur, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Parce qu'ils étaient courageux et qu'ils savaient très bien que ce que faisait l'homme n'était pas grand-chose à côté de la nature quand elle se déchaîne. Oui, le déchaînement de la nature, c'est la matière. Alors on reprendra ça parce que c'est important de voir comment cette philosophie pratique est fondamentale. Il faut tout le temps revenir. Il faut tout le temps réfléchir sur ce que c'est que le travail. On est en train de cuire un œuf. Qu'est-ce que ça veut dire, cuire un œuf? Qu'est-ce que c'est que l'art culinaire? Quand des étudiants de philosophie, on les met à faire la cuisine, ils la font très proprement, et quelquefois trop proprement. Ils savent trop bien ce qu'ils mettent dedans. Tandis que les gens qui sont des grands artistes culinaires ne regardez surtout pas ce qu'il y a dedans, mais c'est excellent. C'est merveilleux. Ça vous rendra malade, mais c'est excellent. Ça vous conduira peut-être à la mort, mais c'est excellent. Vous aurez au moins un petit moment du carpe diem. C'est-à-dire de la joie de manger quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. C'est si curieux, hein, comme l'art fait tout regarder sous un aspect. Et l'art est capable de volatiliser la matière pour la transformer en une œuvre artistique. Tandis que l'artisan, il aime la matière. Et il sait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Et alors, il faut, au-delà de la transformation de la matière, qu'est-ce que c'est que la matière? Il y a une nouvelle connaissance. voudrais que vous compreniez. Parce que c'est très important pour comprendre la clé de voûte. Il faut voir toutes les marches. Si on ne voit pas toutes les marches, on ne comprendra pas la clé de voûte. On fera descendre ça du ciel à Japon en hélicoptère. Mais c'est facile en hélicoptère de mettre une statue en haut de... Mais avant, vous voyez comment on le faisait. Quand il n'y avait pas d'hélicoptère. Le travail, la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière ? Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.